cependant.
L'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, au verset 8, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a point de différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ce texte souligne deux choses importantes. D'abord, il souligne l'importance de la foi sur laquelle nous reviendrons, et il souligne aussi l'importance de la prédication de l'Évangile. Plusieurs fois dans ce passage, Paul souligne la nécessité que l'Évangile soit prêché. La prédication de l'Évangile était si importante pour Paul qu'il ira jusqu'à dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». La prédication de l'Évangile nous parle d'une méthode. La proclamation publique, c'est le mot kérusso. La prédication de l'Évangile constitue le canal privilégié par Dieu pour atteindre les cœurs et les consciences. On évoque aujourd'hui de nombreux et divers moyens pour communiquer l'Évangile, et je crois qu'effectivement on peut utiliser toutes sortes de moyens, mais ne perdons pas de vue le moyen principal pour atteindre les cœurs et les consciences, c'est la prédication de l'Évangile. Et puis, la prédication de l'Évangile nous parle aussi et surtout d'un contenu. L'apôtre Paul a carrément combattu pour que le contenu de la prédication de l'Évangile soit toujours le bon. Parce que si le contenu n'est pas bon, s'il manque certaines vérités, si on déforme le message, on en arrive à prêcher un autre Évangile. Dans l'épître aux Galates, chapitre 1er, verset 8, Paul écrit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le Nouveau Testament est très sévère avec ceux qui déforment l'évangile, car un évangile déformé déformera ceux qui l'ont entendu au lieu de les transformer. Nous allons nous poser cette question, c'est quoi la prédication de l'Évangile? La prédication de l'Évangile, c'est d'abord la prédication d'une bonne nouvelle. Je vous cite quelques textes. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu chapitre 4 verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu chapitre 24 verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Finalement, ce mot est parfois traduit par bonne nouvelle, parfois par évangile selon le contexte. L'évangile, c'est quelque chose de bon et même de très bon. C'est une bonne nouvelle à cause de ce qu'il apporte. Il communique la vie éternelle, l'assurance du salut. L'évangile communique la guérison intérieure. Il permet la guérison physique. Il apporte la joie, la paix, l'espérance. Il provoque un changement profond dans la manière d'aborder la vie. Il donne du sens à l'existence et à la vie. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que toutes ces bonnes choses sont données gratuitement. Elles sont gratuites pour celui qui les reçoit. Bien évidemment, elles ont été payées par quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui a payé le prix fort en offrant sa vie sur la croix. Et c'est aussi une bonne nouvelle parce que c'est facilement accessible et simple dans le mode d'emploi. Un enfant peut le comprendre et saisir l'évangile. Deuxièmement, la prédication de l'évangile. C'est particulièrement la prédication du pardon des péchés. Je vous cite l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 46. Et il leur dit, c'est-à-dire Jésus, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. Jésus mentionne ici deux aspects essentiels du contenu de la prédication de l'Évangile, et l'un de ces éléments essentiels est le pardon des péchés. C'est là où Dieu va agir en premier. Voici l'objectif numéro un de Dieu, parce que c'est le problème numéro un. Votre problème principal n'est pas le chômage, n'est pas la maladie, n'est pas la solitude, n'est pas votre endettement, n'est pas vos problèmes familiaux. Votre problème numéro un, ce sont vos péchés, qui peuvent être liés au problème cité juste avant. Ce que vous devez comprendre sur le péché, c'est que, premièrement, vous en êtes atteint, sévèrement atteint, jusqu'à la racine, jusqu'au plus profond de vous. Deuxièmement, le péché est plus fort que vous, et vous ne vous en sortirez jamais tout seul. Il est plus fort que vos bonnes intentions, que vos résolutions en début d'année, que votre éducation. Vous devez aussi comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Votre péché vous condamne. Enfin, vous devez saisir que Jésus seul peut pardonner et effacer tous vos péchés, les grands comme les petits, les connus et ceux que vous ignorez, les conscients qui vous hantent et ceux qui sont même passés dans l'inconscient, les péchés répétitifs aussi, les péchés que vous jugez impardonnables aussi, les péchés que vous ne vous pardonnez pas. Tous peuvent être effacés par la personne de Jésus. C'est pas pour rien si le premier qui bénéficia du plein pardon des péchés, ce fut un brigand sur la croix. La prédication de l'Évangile, c'est aussi la prédication de la foi. Et je reviens sur le texte que nous avons lu au départ, où il est beaucoup de questions de la prédication de la foi. Je cite un autre texte, Galates chapitre 3, verset 1er. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous? Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Pourquoi la foi fait-elle partie du contenu de la prédication de l'Évangile? Parce qu'elle est le moyen que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir saisir et vivre l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle mise à la disposition de tous, mais il devient agissant avec ceux qui croient dans la personne de Jésus, avec ceux qui se l'approprient par la foi dans leur cœur. Et nous parlons d'une foi indépendamment des mérites, des œuvres, simplement la foi qui saisit le salut que Jésus nous offre. Un jeune homme, un jour, était venu dans mon bureau et voulait se faire baptiser, parce qu'il savait que c'était dans le processus. Alors je lui posais cette question, es-tu sauvé? Et j'insistais, si tu meurs ce soir, où est-ce que tu vas? Et là, il n'a pas su me répondre. Quelques semaines plus tard, il est revenu, et alors qu'il n'était même pas encore assis, dès qu'il est rentré dans le bureau, il m'a dit, l'autre fois, vous m'avez demandé si j'étais sauvé, et je n'ai pas pu répondre. Et aujourd'hui, je peux vous répondre, je sais que Jésus-Christ m'a sauvé et il a pardonné mes péchés. C'était clair, c'était net. Et ce coup-ci, c'était moi qui étais sans réponse. Parce qu'entre-temps, il avait placé sa foi en Jésus et Dieu avait déposé dans son cœur la certitude du salut. La prédication de l'Évangile, c'est aussi la prédication de la repentance. J'ai cité tout à l'heure Luc chapitre 24, versets 46 et 47, qui cite la prédication de la repentance. Je vous cite aussi Marc chapitre 6, verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Acte 26, verset 20. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. La foi a un pendant, c'est la repentance. La foi et la repentance fonctionnent ensemble. Ils sont indissociables. La repentance, c'est cette prise de conscience de son péché, de sa profondeur, de sa gravité. C'est aussi la décision de rompre avec le péché. Elle fonctionne avec la foi c'est le recto, la repentance c'est le verso, c'est indissociable. Une anecdote pour comprendre cela, un homme qui voulait acheter un veston va en voir un dans la vitrine d'un magasin. Le style lui plaisait, le prix aussi. Est-ce qu'il allait lui aller? Il rentre et demande à essayer le veston, et il l'essaie. Et il lui va super bien. Alors il dit à la vendeuse, je le prends. Et la vendeuse s'en va. Et revient avec un pantalon. Et là, il lui dit, mais je veux que la veste. La vendeuse lui dit, monsieur, le prix affiché, c'est le prix du costume. Vous avez un pantalon avec la veste. Dans l'évangile, ces deux parties vont aussi ensemble. La foi et la repentance. La foi qui consiste à saisir ce que Dieu nous donne et la repentance qui consiste à se détourner de ses péchés. La prédication de l'évangile, c'est aussi la prédication de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Voilà un autre aspect fondamental et incontournable de la prédication de l'Évangile, la croix. Là, nous ne parlons pas de ce que l'Évangile produit. Nous ne parlons pas non plus du moyen pour le recevoir. Mais nous parlons de ce que Dieu a fait pour que l'Évangile transforme nos vies. La mort et la résurrection de Jésus sont au cœur de l'Évangile. C'est l'événement qui occupe le plus de place dans l'Évangile. Et la croix, elle est au cœur de la prédication. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui ouvrent le chemin du salut. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui permet au Saint-Esprit de déposer le salut dans notre cœur. C'est sur la croix que Jésus a payé le prix de notre rachat. C'est la croix qui rend possible notre conversion, notre salut. La foi et la repentance fonctionnent à cause de la croix. Alors c'est vrai que la croix est un mystère, une folie, un scandale. Derrière la méchanceté des hommes s'accomplit l'amour de Dieu. Derrière la plus grande injustice que la terre ait connue, Dieu accomplit sa justice en prenant notre place. Derrière ce qui a l'apparence d'une défaite, s'écrit la plus grande des victoires remportées sur un champ de bataille. On a besoin du secours de Dieu pour comprendre la croix. Charles Murray, étudiant, se préparait pour les Jeux Olympiques de l'été de 1968, dans la discipline du haut plongeon. Un pasteur lui avait parlé longuement de Jésus et lui avait rendu témoignage, mais sans plus. Il ne comprenait pas certaines choses, notamment comment, par la mort de Jésus, on pouvait être sauvé. Comme il s'entretenait pour les Jeux Olympiques, Charles avait le privilège d'entrer comme il voulait dans la piscine de l'université. Un soir, entre 22h30 et 23h, il décide d'aller nager et pratiquer quelques plongeons. C'était une nuit d'octobre. De pleine lune, la toiture de la piscine était en panneaux de verre qui éclairaient le bâtiment. Il grimpa au plongeoir le plus haut. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu a commencé à le convaincre de pécher. Tous les versets de l'Écriture affluaient dans sa tête. Il recula pour prendre son élan et plonger. Il étendit les bras et là, sur le mur d'en face, Son corps formait la croix avec la lumière de la lune. Ne pouvant plus résister au fardeau de ses péchés, il s'assit sur le plongeoir et demanda à Dieu de lui pardonner ses péchés. Et là-haut, assis sous 7 mètres de hauteur, il mit sa foi en Christ. Soudain, le concierge alluma les lumières pour vérifier la piscine. Quand Charles regarda en bas, la piscine était vide. Elle avait été drainée pour réparation. La croix l'avait sauvé d'une double mort, d'une mort physique dramatique et certaine, et d'une mort éternelle. Enfin, dernièrement, la prédication de l'Évangile, c'est la prédication du Christ. J'ai déjà cité un texte qui parlait de la prédication de Jésus crucifié. Je vous en cite deux autres. Acte 8, verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. De Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. La prédication de l'Évangile, c'est proclamer une personne, Jésus, le Fils de Dieu. Le Dieu qui s'est fait homme, le Seigneur, le Sauveur, le Substitut, le Rédempteur. Jésus, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous, sous une forme humaine, qui nous montre une manière de vivre, qui nous fait connaître Dieu autrement, et surtout, qui accomplit le plan du salut par sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est aussi Dieu qui vient habiter parmi nous et dans notre cœur. Je résume tout ce que j'ai dit. La prédication de l'Évangile est et restera toujours, et elle doit toujours rester, une bonne et une merveilleuse nouvelle. C'est une invitation avant tout au pardon des péchés. C'est un appel à la foi et à la repentance. C'est un zoom braqué vers l'événement incontournable, la croix. Et c'est la mise en évidence d'une personne, Jésus-Christ, le Sauveur. Recevez la bonne nouvelle, saisissez le pardon des péchés, enclenchez la foi en Jésus-Christ et la repentance, regardez à la croix, acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Seigneur, je veux prier pour que la prédication de l'Évangile puisse encore sauver aujourd'hui. Je prie pour que le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Je prie pour que le Saint-Esprit suscite la foi. Je prie pour que le Saint-Esprit amorce la repentance au nom de Jésus. Que maintenant, quelqu'un puisse tourner les yeux vers Jésus-Christ et réaliser ce qui a été fait sur la croix et recevoir la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen.